Good Morning Business, face à le Chypre.
Et on revient sur cette rencontre au sommet. Alors, on attend toujours les annonces sur d'éventuels contrats. Donald Trump, lui, parle d'accords commerciaux fantastiques. Face à vous, Emmanuel de Chypre, ce matin, Raphaël Legendre. Et notre regard va se décaler un petit peu par rapport à cet événement, parce que des thèmes stratégiques, en réalité, sont abordés à Pékin depuis deux jours, avec des Européens qui, peut-être, Raphaël, sont les dindons de la farce de cette rencontre, finalement, des sujets qui sont décidés sans eux.
Je dirais pas les dindons de la farce, mais on va voir fleurir les commentaires des observateurs en disant que l'Europe est totalement absent, une fois de plus, de ce grand rendez-vous des deux grandes puissances mondiales. On parle commerce, on parle géopolitique, on est très directement impacté, nous, par ces discussions. La crise en Iran pèse très lourd sur notre croissance et l'Europe est évidemment totalement absente de ces discussions. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on est au banc des puissances mondiales ? Moi, je pense que non. On va voir ce qu'en pense Emmanuel tout à l'heure. Mais cette domination mondiale, elle se joue sur trois terrains de jeu. Selon moi, c'est économique, technologique et évidemment stratégique. La géopolitique dont on parle quotidiennement. Et bien sur ces trois points nous concernent, de tous les pays qui sont pris en étau entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui, je pense que la zone euro, l'Europe, l'Union européenne, est celle qui a le plus d'avantages pour s'en sortir, pour émerger en tant que véritable puissance, même si on n'y est pas encore tout à fait. Emmanuel nous en parlera. Mais sur l'économie, je voulais simplement rappeler un chiffre. C'est l'excédent de la balance courante européenne. On vend davantage que ce qu'on achète. On exporte 365 milliards d'excédents courants en 2025. C'est 1 milliard par jour de bénéf, pour faire simple. Quand les États-Unis, c'est plus de 1000 milliards de déficit courant. Donc, économiquement, on est puissant. Le monde veut acheter nos produits. On vend énormément.
Et les Chinois, c'est 1200 milliards.
Alors, les Chinois sont à plus de 1000 milliards, donc c'est effectivement plus de trois fois nos excédents. On est bien d'accord, mais on a excédent de 1000 milliards d'un côté, déficit de 1000 milliards de l'autre. On vend quand même, on a 360 milliards d'excédents. 1 milliard, c'est facile à retenir, 1 milliard d'excédents par jour. C'est une force. C'est une force, il faut s'en rendre compte. On le raconte pas assez, ça, dans l'opinion publique. Sur la technologie, on a tous les acteurs pour concurrencer les acteurs américains. On n'a pas raté la tech, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. Simplement, on a une tech moins visible du grand public que les Google, les Amazon, Apple et consorts. Mais on a SAP dans les logiciels, on a ASML dans les semi-conducteurs, on a Siemens dans l'industrie, Mistral, évidemment, dans l'intelligence artificielle. On a toutes les briques stratégiques, en réalité, simplement, et sur lesquelles on est incontournable en plus, simplement, on n'a pas le narratif, là, encore une fois, et puis souvent, on n'a pas l'échelle non plus, parce que on a toujours nos barrières européennes qui font qu'on a tous les acteurs qui sont là, avec des produits de qualité, mais on n'a pas l'échelle du marché commun en entier. Donc le sujet, c'est pas l'absence de champions, c'est la fragmentation. Et puis enfin, sur la géopolitique, c'est vrai que là, on est un peu en arrière de la main face aux États-Unis ou à la Chine, mais on est fort sur plusieurs politiques fédérales, le commerce, la concurrence et la politique monétaire avec l'euro. Là où on est faible, c'est quand on est sur le national. Et donc, c'est la défense, c'est les affaires étrangères, c'est le volet géopolitique. Et pour ça, c'est la gouvernance européenne qu'il faut revoir.
Emmanuel de Chypre, pour Raphaël Legendre, tout va bien sur la scène internationale.
Alors, on ramasse un peu tout ça, et puis pour remettre aussi en perspective tout ce qu'on a dit un peu cette semaine autour de ces thématiques-là, notamment avec Jean-Marc Daniel. Donc, moi, j'entends quoi ? J'entends finalement que on va vers une Europe qui a tout le potentiel pour se redresser, qui a les bonnes valeurs, qui a les bons objectifs, l'Europe qui va vers la transition écologique, face à des États-Unis qui, si j'en crois ce que dit Jean-Marc Daniel, sont devenus un pays du tiers-monde surendetté, les chiffres qu'a souligné Raphaël. Si on en croit aussi, finalement, cette vision de la Chine, pays qui va bientôt devenir extrêmement vieux avant d'avoir été riche, je me dis, mais oui, l'Europe a tout pour être la grande puissance du 22e siècle.
Ouais, c'est ça. On va attendre encore un peu.
Voilà.
Il y a du boulot.
Mais oui. Mais en attendant, il aura fallu qu'elle survive au 21e siècle. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est là où ça n'est pas gagné, parce que la réalité, c'est qu'en fait, quand on regarde depuis le début de la construction européenne après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on est effaré de voir à quel point cette construction européenne s'est faite au prix d'une dépendance totale vis-à-vis du reste du monde, dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis, dépendance énergétique vis-à-vis du Moyen-Orient et de la Russie. Le problème, c'est que, encore une fois, cette prospérité européenne de l'après-guerre bâtie sur la peur que la guerre revienne à nouveau, ben, ça marchait quand le monde était bienveillant, quand le monde était multilatéral, pas quand le monde redevient un monde de puissance sans morale, alors que l'Europe ne jure que finalement par... L'Europe déteste la puissance et ne jure que par la morale. Donc ça va être extrêmement compliqué.
Mais sauf dans les moments de crise, comme en ce moment, en réalité, où on se réveille.
Oui, vous n'avez pas tort. C'est vrai que c'est toujours dans les moments un peu critiques que l'Europe avance. L'Europe avance par à-coups. C'est vrai qu'on l'a vu, ne serait-ce que pendant la crise de 2008-2009, où là, on a bâti les filets de sécurité financière. Mais là, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que c'est notre logiciel intellectuel qui est mort. En plus de ça, moi, je partage pas l'optimisme de Raphaël sur la technologie, surtout l'unité européenne. On voit bien que au moment où les empires se reforment, on ne joue que la fragmentation. C'est-à-dire que quand le monde était calme, prospère, on pouvait finalement se chicaner dans la cour de récréation et se tirer la bourre entre Allemands, Italiens, Espagnols, Français, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible. Vous ne pouvez pas avancer dans un monde où vous avez les États-Unis qui sont le pays de l'agilité et de l'innovation, de l'autre, la Chine qui est le pays de la stabilité, de la vision à long terme. Vous ne pouvez pas avoir un continent comme l'Europe qui est aussi fragmenté. Donc, moi, je pense qu'il y a deux scénarios. Il y a un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Le scénario optimiste, c'est celui qu'a décrit Raphaël. C'est effectivement l'Europe qui, entre une Chine et des États-Unis qui ne sont pas si puissants que ça, va se refaire finalement une place et devenir la meilleure place du monde finalement pour vivre.
Mais la question aussi,
Mais l'autre scénario, c'est oui, je pense que l'Europe peut devenir le paradis du monde, mais pour
devenir
une espèce de centre de loisirs.
L'Europe géant a-t-elle conscience de sa puissance? C'est aussi ce qu'on.
Non, mais l'Europe, elle a abandonné son industrie.
Mais c'est ça tout le sujet, c'est une question de narratif politique en réalité, c'est un combat gramscien pour l'hégémonie culturelle.
C'est le plus gros
on
marché du
nourrir.
Monde.
On est le premier marché de consommateurs du monde, effectivement. On a toutes les ressources pour être une véritable puissance. Ce qui manque, c'est le leadership politique. Il y a un mode de gouvernance qui doit changer. Mais vous l'avez dit, Erwan, chaque crise est une opportunité. Et là, on est secoué comme jamais. Le monde a changé terriblement en 10, 15 ans. Et effectivement, le logiciel européen doit s'adapter. Alors, c'est lent, c'est long, c'est beaucoup trop long parce que on est beaucoup autour de la table, qu'il faut qu'on se mette d'accord. Il faut changer les règles. La règle de l'unanimité, par exemple, ça n'est plus possible. Mais il faut aller vers ce que Mario Draghi a appelé un fédéralisme pragmatique, c'est-à-dire des coalitions de volontaires pour avancer tous ensemble, mais on a vraiment les moyens de s'en sortir. C'est une question de mindset, d'état d'esprit. Il faut qu'on devienne beaucoup plus conquérant.
En tout cas, voilà, se réveiller dans les crises, ça nous fait, figurez-vous, un point commun avec les Chinois, parce que vous connaissez la subtilité du mandarin. Crise veut dire aussi
opportunité.
Voilà, ça nous fait peut-être un point commun.